des étudiants étrangers en France.
Avec Kéram Djeralian.
Je viens d'une double diaspora, la diaspora palestinienne et la diaspora arménienne. Cette double diaspora, c'est quelque chose qui, bah, je ne veux pas dire me hante, mais qui nous hante, soit arménien ou palestinien. Ça veut dire qu'on essaye de connecter avec soit la Palestine, si je me permets de l'appeler la Palestine, parce que ça existe pour moi, ou l'Arménie, qui maintenant existe, c'est la République d'Arménie. Par contre, l'Arménie maintenant, c'est pas l'Arménie de mon grand-père. C'est très intéressant qu'à Erevan, je suis allé plusieurs fois, on voit la montagne Ararat, qui est vraiment le symbole de l'Arménie. De l'Arménie, de la diaspora, du génocide. On le voit très bien, mais c'est pas en Arménie, c'est en Turquie. Il y a des réalités comme ça qu'il faut affronter. Cette double diaspora est un grand facteur qui a forgé mon identité. Et aussi, je ne veux pas oublier le côté égyptien. Le Caire, c'est chez moi. C'est là-bas où mes parents vivent toujours. Et c'est là-bas où j'ai mes livres, j'ai la plus grande collection de mes livres, j'ai mon appartement, j'ai mon atelier. Et pour Noël, je rentre au Caire. Alors il y a le côté égyptien qui, oui, j'ai pas le sang, j'ai pas la nationalité, mais j'appartiens à l'Égypte. Je suis né au Caire, c'est le capital de l'Égypte.
Et vous avez passé toute votre enfance au Caire ?
Oui, absolument. J'ai fait l'école au Caire, mais je venais beaucoup en France, au sud-ouest, Pays Basque, Saint-Jean-de-Luz, parce que ma famille, déjà ma tante y habitait, et parce qu'une partie de ma famille travaille là-bas.
Mais vous-même, vous n'êtes pas de nationalité égyptienne ?
Non, je ne le suis pas. Culturellement, je suis égyptien, bien sûr, mais mon père est arménien. Il est né à Gaza, il a grandi à Gaza. Ma mère, elle est palestinienne, née à Bethléem, elle a grandi à Bethléem aussi. Et les deux se sont rencontrés au Caire, parce que les deux travaillaient et travaillent toujours au Caire. Et voilà, c'est comme ça que je suis né au Caire. Et j'ai eu passeport hollandais. Alors ma seule identité officielle ou politique est hollandaise, de ma mère, dès que je suis né.
Pourquoi ? Parce que votre mère a la nationalité hollandaise.
Oui, parce que ma mère a la nationalité hollandaise. À l'époque, elle avait la nationalité jordanienne. Alors, elle a laissé ça pour la nationalité hollandaise. Elle était naturalisée aux Pays-Bas.
Est-ce qu'il y a un passeport palestinien ?
Maintenant, il y a un passeport palestinien. Avant, il n'y avait pas. C'était la Cisjordanie appartenait à Jordanie. C'était le passeport jordanien. Mais après Oslo, c'est devenu les territoires palestiniens. Et du coup, on a des papiers officiels palestiniens.
Quelle année, Oslo ?
93.
Et alors, pourquoi est-ce que votre mère a eu un passeport néerlandais ? Quel est son lien avec les Pays-Bas ?
Elle est venue au Caire pour étudier à l'université américaine. Elle s'est mariée avec son prof, ça c'est avant mon père, qui était, puisqu'il est mort, qui était hollandais. Et c'est comme ça qu'elle a eu le passeport hollandais.
Votre père, lui, est arménien ?
Arménien, de deux parents arméniens, né à Gaza.
Pourquoi cette trajectoire de l'Arménie à Gaza ?
Il y avait déjà la génocide. Mon grand-père a survécu au génocide, l'Arménie historique, qui est devenue la Turquie. Il avait 5 ans et il s'est trouvé en Syrie, dans un orphelinat. Et à l'âge de 18 ans, il a voyagé en Palestine. C'était d'abord Jaffa. C'est là-bas qu'il s'est mis à photographier. Puis, il s'est marié à ma grand-mère, qui est arménienne du Liban. Et ils se sont installés à Gaza. Et il était le premier photographe de Gaza. Il s'appelait Kéram aussi. Je ne l'ai jamais rencontré, mais comme mon travail, c'est l'art visuel, je connecte beaucoup avec mon grand-père, sur le côté photographique, côté visuel. J'ai toujours voulu le connaître bien. De ma famille, il est le seul artiste qui était très important à Gaza, bien qu'il ne soit pas palestinien. Quand il y avait des disputes, on allait le voir, c'était vraiment le sage. Je ne connais pas Gaza par contre, j'ai essayé d'y aller plusieurs fois, Mais c'est pas évident d'y aller. C'est pas. Je connais très bien la Palestine, Bethléem. J'y vais toujours. Ça veut dire l'été, toute mon enfance, j'y allais. Le côté arménien de ma famille, ils sont plus à Gaza, bien sûr. Ils sont à Jérusalem. Parce que c'était que deux ou trois familles arméniennes à Gaza. Alors c'était un peu exceptionnel. Il n'y avait pas d'école arménienne, il n'y avait pas une église arménienne. Ils se sont bien assimilés dans la culture. Et voilà. Mais c'est aussi l'histoire de beaucoup d'Arméniens dans la diaspora. Je ne sais pas pourquoi les Arméniens sont soit bijoutiers, soit dentistes, soit photographes. Ça reste jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai qu'à Jérusalem aussi, il y avait plein de photographes arméniens. Et voilà, on s'adapte, on s'assimile.
Est-ce que vous avez pu voir des photos de votre grand-père ?
Oui, bien sûr. Il a bien documenté tous les événements de Gaza. Photos de famille, mariage, tout. Le premier soldat israélien qui a mis pied à Gaza. Mais pour moi, c'est le plus important, c'était vraiment la documentation sociale et politique de Gaza. Par contre, il y a plein de ces négatifs qui sont toujours à Gaza. Et c'est pour cela, spécialement, que je voudrais aller à Gaza, pour pouvoir sauvegarder, faire une compilation, et aussi pour me connecter à mon grand-père. Il faut aller sur place, et c'est pour ça que j'ai essayé plusieurs fois. Mais c'est pas facile. Parlant de l'Égypte, là, la dernière fois que je suis allé, j'ai dû avoir un visa de touriste. Et là, ça me choque un peu que j'ai perdu ma résidence. Mais bien sûr, je peux l'avoir, c'est pas difficile, mais ça prend du temps. Et aussi, durant la Révolution, ben, les premières trois semaines où il y avait des...
Donc du printemps arabe, enfin...
Printemps arabe, le 25 janvier
2011.
Il y avait 2-3 semaines où la place Tahrir était vraiment la place de la révolution. Et tout le monde y allait, bien sûr. C'était tout près de chez moi, à Garden City. Et il y avait des checkpoints populaires. Et on devait avoir une pièce d'identité. Moi, je n'ai pas de pièce d'identité, je n'ai que le passeport hollandais. Alors j'avais ça avec moi. Du coup, il va le passeport. J'ai des traits très iraniens. Je parle très bien l'égyptien. Mon nom n'est pas lisable pour eux. Et un passeport européen. J'étais toujours pris pour un espion. Et ça m'a vraiment vexé. C'était la première fois où je me suis senti... Attends, je ne suis pas égyptien. Et on peut me chasser très facilement de l'Égypte. Mais c'était vraiment un sentiment passager aussi. Alors, je ne vais pas parler d'identité hollandaise. J'appartiens moins aux Pays-Bas. Mais d'avoir le passeport hollandais, c'est très important pour moi. Sinon, j'aurais été comme mon père, avec un laissez-passer de réfugiés palestiniens en Égypte. Grâce au passeport hollandais, d'abord je suis là en France, que j'ai pu voyager en Palestine, voir ma famille, que je peux voyager, tout simplement.
Mais alors au niveau des langues, quelle est votre langue maternelle ou quelles sont vos langues maternelles ?
L'arabe, les deux dialectes, le palestinien et l'égyptien. Mon père me parlait en arménien jusqu'à l'âge de 3 ans peut-être. Et puis, puisque ma mère ne parle pas l'arménien, c'était plutôt en arabe et en anglais. Et puis l'anglais, bien sûr, c'était bien que j'étais dans une école francophone, chez les pères jésuites au Caire. Je suis plutôt anglophone, je crois que c'est grâce à ma famille ou à cause de ma famille. C'est une famille assez internationale. Ma mère est prof à l'université américaine. Elle est prof d'arabe, par contre, d'études d'arabe. Mais elle était dans une école catholique à Bethléem. Sa formation, c'était français, anglais et arabe.
Alors pourquoi est-ce que vos parents ont choisi de vous mettre dans une école de jésuites ? Et de français.
Il y avait toujours la culture en Égypte que le français est la langue raffinée, la langue de l'élite. Maintenant, c'est plutôt l'anglais. Alors, d'être scolarisé dans une école francophone et catholique était le choix le plus sage. On a une bonne formation, on est bien discipliné. Je trouve un peu obsolète, mais voilà, c'était cette décision.
Et donc, du coup, vous avez aussi eu un enseignement religieux catholique ?
Oui. Ma mère, elle est catholique. Mon père est arménien orthodoxe. C'est la mère qui était toujours la plus religieuse. Elle est catholique de Bethléem. Elle en est fière d'être de Bethléem. Moi, je suis chrétien, tout simplement. C'est ça, ma foi.
Comment ça s'est passé donc au niveau de vos études? Donc, vous avez été chez les jésuites, oui. Vous avez passé l'équivalent de votre baccalauréat. Oui. Et ensuite, est-ce que, par exemple, votre goût pour l'art était présent en vous tout jeune?
Oui, c'était très présent en moi, déjà à l'âge de 6 ans, où je dessinais beaucoup. J'aimais bien dessiner des robes. Et j'avais toujours un intérêt artistique. Je jouais le piano, 1 à 3 heures par jour. Et c'était clair pour moi que je voulais faire les études de l'art. Par contre, quand j'ai fini, voilà, t'as des bonnes notes, tu fais l'école de médecine ou tu fais l'école d'ingénieur. C'était clair que voilà, je vais essayer d'entrer dans l'école d'ingénieur à l'Université américaine du Caire, où j'ai une bourse complète grâce à ma mère qui est prof là-bas. Et c'était clair que j'aimais pas l'école d'ingénieur. Et j'ai changé pour l'école d'art à l'Université américaine. Tous mes collègues et mes profs ont cru que j'ai perdu mon cerveau. Mais je ne me vois pas ingénieur. Et voilà, j'ai changé, j'étais vraiment content. J'ai commencé aussi à expérimenter avec la photographie et la sculpture. Alors j'ai fini l'université américaine. Et puis, quelques mois plus tard, je suis allé à Londres, où j'ai étudié à Goldsmiths College la théorie de l'art contemporain et la culture visuelle. Ça m'a bouleversé un peu. Il y a beaucoup de travail cérébral, beaucoup de Deleuze, beaucoup de Foucault, beaucoup de Derrida, beaucoup de français, Lacan. Et j'ai pas eu ça comme background dans mes études à l'université américaine. Et ça a vraiment changé ma pratique d'art. Et jusqu'à maintenant, c'est même dans la mode, je reviens toujours à la théorie. C'est comme ça que je commence chaque projet. Même un projet de packaging pour une marque de luxe. Naturellement, je commence à penser à quel texte, quel concept, quelle idée. Et c'est toujours mon point de départ.
Mais comment s'est passé ce passage de l'Égypte à l'Angleterre?
C'était bien, c'était pas très difficile.
Donc pas de choc culturel?
Non, du tout, pas de choc culturel du tout. Peut-être c'est grâce à ma famille et assez internationale, même si je voyageais pas, c'était pas quelque chose d'étranger pour moi. Londres, c'est... on voit pas des Anglais. Londres, on peut être londonien le moment qu'on a l'attitude. C'est une ville qui est très internationale et très accessible.
Après vos études à la Goldsmiths College, vous êtes rentré au Caire, où vous avez commencé à faire des shootings dans le milieu de la mode. Et je crois qu'il y a quand même un moment qui est très important pour vous, c'est en juin 2010, vous faites 2 shootings en collaboration avec la maison Kenzo à l'occasion de leurs 40 ans.
Ce projet était un moment clé dans ma carrière. À ce point-là, j'ai su que je voulais faire de travailler dans la mode, c'était clair.
Alors qu'est-ce qui vous plaisait dans le monde de la mode?
La création des vêtements, c'est pas ma spécialité. Bien que je trouve que c'est très intéressant de créer les vêtements, le stylisme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image, c'est les visuels de la mode. Et j'ai la chance d'être ici à l'IFM, à l'Institut français de la mode, dans un programme qui est assez nouveau, c'est la création de l'image dans la mode. Et voilà, on est des créateurs de l'image. Et ça me permet de marier mes 2 passions.
Et alors, une fois que vous aurez fini ces 10 mois à l'Institut français de la mode, quel sera votre objectif suivant?
Je continuerai à faire ce que j'ai fait et ce que je fais. Ça fait 3 ans que je suis à Paris, en fait. Et j'étais rédacteur de mode pour un magazine de mode international, mais bilingue, anglais-arabe, spécialisé au Moyen-Orient. Et je faisais beaucoup de shooting en freelance. Et j'essaye de continuer de faire ça à côté de l'IFM, ce qui n'est pas évident du tout, puisqu'on travaille beaucoup ici. Alors après l'IFM, je crois que je serai à Paris. Paris est devenu chez moi très vite. J'avais la chance de trouver un appartement à Paris avec une propriétaire super sympathique qui est devenue comme ma famille ici, comme une mère. Et c'est une des raisons où j'ai décidé de rester à Paris. J'ai trouvé mon nid, mon quartier, mon appartement, mes amis, mon cercle. Et déjà, les opportunités professionnelles se sont présentées. Alors, je voyais un grand potentiel de travail ici. Et voilà, c'est mon histoire avec Paris. Quand je suis au Caire, Paris me manque, je veux rentrer. Oui, j'ai fait mon nid ici. Et je me sens bien, je ne me sens pas comme un étranger en France du tout.